au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui va nous donner le plaisir d'aller à la rencontre de M. Didier Long, un auteur qui est déjà beaucoup publié et qui vient de faire paraître chez Bourrin Éditeur « Capitalisme et christianisme, 2000 ans d'une tumultueuse histoire ». Bonjour.
Bonjour à tous.
Heureux de vous accueillir. Alors, je vais commencer par dire un mot sur vous-même, puisque vous avez eu un parcours assez original, sur lequel je vais rappeler les grandes étapes, mais peut-être aurez-vous quelques compléments à donner. Vous avez été moine bénédictin, donc il y a peut-être un lien avec le titre de cet ouvrage, « Capitalisme et christianisme », deux sujets, chacune des composantes étant dans l'actualité, à plus d'un titre et pour des raisons qui sont diverses, sur lesquelles on reviendra. Vous êtes éditeur et artiste pendant 10 ans à l'abbaye de Pierre-qui-Vire avant de devenir consultant chez McKinsey. Et vous dirigez aujourd'hui un cabinet de conseil en stratégie et Internet. Vous êtes donc, je le disais tout à l'heure, auteur de plusieurs livres, dont « Défense à Dieu d'entrée » chez De Noël. Vous avez eu le prix Maison de la Presse en 2005. Et « Pourquoi nous sommes chrétiens cherche midi ». Vous avez publié en 2008 « Jésus le rabbin qui aimait les femmes » chez Bourrin Éditeur. Ce sont des titres quand même qui sont assez provocateurs. Et d'ailleurs une forme d'écriture que l'on retrouve dans votre nouvel ouvrage « Capitalisme et christianisme, 2000 ans d'une tumultueuse histoire », édition Bourrin, 200 pages, 21 euros. Alors, nous en venons, si vous le voulez bien, au cœur du sujet, peut-être avant un complément dans la présentation que je viens de faire de vous.
Alors oui, c'est vrai que c'est un peu abrupt, mais c'est vrai que j'ai été moine bénédictin de 20 à 30 ans à l'abbaye de la Pierre-qui-Vire, donc dans le Morvan. J'étais éditeur, j'étais responsable de la formation intellectuelle, formation permanente des frères. Et c'est vrai que j'ai plongé en fait du village médiéval, rythmé par la cloche, rythmé par le travail, ora et labora, prix et travail, à la grande ville globale, au monde global tel qu'il est, réparti autour des villes, rythmé par le Blackberry et l'Internet. Et donc, passer du village global, passer au...
À la cloche globale.
Où c'est ora et ora et ora.
D'accord.
Ou labora et labora et labora.
Très bien. Alors, c'est la raison pour laquelle on retrouvera dans votre ouvrage des traces d'une très grande culture, qui est donc le premier intérêt de cette parution. Alors, vous relatez 2000 ans d'une histoire tumultueuse entre donc ces deux partenaires, en rappelant l'idéal de liberté, d'égalité et de fraternité chrétienne, et donc fondateur de la civilisation du capitalisme. Sans le judéo-christianisme, ces valeurs n'auraient pas pu être mises en avant.
Tout à fait. C'est-à-dire que je me resitue d'un point de vue, comme dirait Brodel, de l'histoire longue. C'est-à-dire que j'essaie d'envisager qu'est-ce qui s'est passé en fait à la chute de l'Empire romain et à partir de la chute de l'Empire romain jusqu'à aujourd'hui. Et effectivement, ce qui m'a lancé en fait sur cette réflexion, c'est un peu ce qui s'est passé pour Augustin au IVe siècle, pour saint Augustin. Donc, qu'est-ce qui se passe au IVe siècle? Le 24 août 410, rappelez-vous vos livres d'histoire,
oui, Alaric, c'est un peu vieux quand même.
Rentre dans Rome et Alaric va violer Rome, va rester juste 3 jours, mais la nouvelle arrive à Augustin, qui est de l'autre côté de la Méditerranée, je vous le rappelle, donc en Afrique du Nord. Et Augustin va écrire la Cité de Dieu. Il dit, mais pourquoi Rome, qui était finalement inviolée depuis 800 ans, est tombée? Et il dit, c'est parce que ces dieux ne l'ont pas protégée. Et cette chute de Rome va être un élément insignifiant, mais un marqueur très très fort dans l'imaginaire de l'époque. On se dit, Rome est tombée. Et il me semble qu'avec la crise économique qu'on vit aujourd'hui, il y a une espèce de... C'est très difficile de lire l'histoire en temps réel. Peut-être qu'on relira le 11 septembre comme un élément symbolique qui fait qu'un certain Alaric est rentré à l'intérieur du cœur de la civilisation, inviolé depuis 800 ans, ou plutôt depuis... ça dépend comment on date la civilisation du capitalisme. Mais je reprends cette idée Schumpeter qui dit « il y a une civilisation du capitalisme ». Il me semble que cette civilisation du capitalisme est marquée en fait par le christianisme, par des valeurs qui sont issues du judéo-christianisme. Le judaïsme et le christianisme, pas seulement le christianisme. Parce que le christianisme, finalement, fonctionne comme une synthèse, un syncrétisme qui va fédérer, en fait, la raison grecque et la révélation juive à l'intérieur d'une nouvelle forme de culture, ou d'une culture nouvelle.
Alors, effectivement, vous décrivez ces liens. Par contre, vous parlez de l'hypercapitalisme, en tout cas, dont on a connu les excès récemment à travers la crise de 2008. Et vous dites que, de toute façon, c'est une déviance ou une anomalie du capitalisme. Vous en fixez, en quelque sorte, les limites.
Ce que je pense, c'est que l'analyse, en fait, du capitalisme, capitalisme comme religion a déjà été un peu anticipé par quelqu'un comme Max Weber. Mais Weber a raison quand il dit que le capitalisme est lié à un ascétisme. Il a tort quand il dit que le capitalisme est lié à l'ascétisme calviniste. Le capitalisme est lié à l'ascétisme qu'on va retrouver en fait dans le stoïcisme et qui arrive directement chez les moines et qui commence à travailler l'Occident bien avant, presque au moment de Paul en réalité, presque au moment de Saint-Paul, donc vers 55, les écrits de Saint-Paul. Mais donc il travaille déjà la civilisation juive depuis longtemps, le stoïcisme. Et ce stoïcisme avec ses valeurs en fait ascétiques va travailler la vie monastique au XIIe siècle. Je montre qu'à l'intérieur de la vie monastique, en fait, le premier grand mouvement en fait de production en Europe est lié au monastère et qui est lié à une utilisation de la raison, une économie rationnelle. Voilà. Donc, il me semble que donc Weber là-dessus avait tort et avait raison en même temps. Et il me semble que cette civilisation est très profondément liée en fait à des valeurs qu'elle a utilisées, qu'elle a creusées parfois d'ailleurs contre la religion et parfois contre les églises et que ces droits de l'homme, toutes ces valeurs, se sont perverties dans l'hypercapitalisme. Qu'est-ce que j'entends par hypercapitalisme ? L'hypercapitalisme, maintenant le mouvement est assez bien analysé quand on se situe d'un point de vue économique, donc par des gens...
C'est la théorie du chaos, en fait, en quelque sorte.
C'est l'idée qu'en fait, depuis 30 ans, on a assisté... Alors les uns vont vous dire c'est Friedman contre Keynes, d'autres vont vous dire autre chose. Mais c'est l'idée que depuis 30 ans, on a assisté à une création de valeurs économiques qui est purement basée sur des valeurs financières. Alors c'est une banalité de dire ça, au détriment en fait de l'économie réelle. C'est une banalité de dire ça, mais on l'analyse très finement, on peut l'analyser beaucoup plus finement. Donc, en fait, c'est lié à trois grands facteurs. Un premier facteur qui est la globalisation des échanges, la mise en réseau des échanges. Deuxième grand facteur qui est les technologies de l'information, la capacité avec les technologies de l'information d'échanger en temps réel et sur toute la planète des flux qui, quand ils venaient en bateau ou en avion ou en train, mettaient beaucoup plus de temps à arriver. Et troisième grand facteur, donc, c'est la dérégulation qui fait qu'en fait, pour qu'il y ait les subprimes, il faut qu'il y ait une possibilité qu'un certain nombre de verrous sautent et qu'on puisse vendre à des pauvres, en gros, des maisons où ils vont payer plus cher que leur salaire chaque mois. Et ces éléments-là ont fait que l'économie s'est emballée et pour continuer à créer une valeur qui, elle, était une valeur fictive, qui n'était plus une valeur réelle, qui était redistribuée en fait à des populations, eh bien, on s'est retrouvé avec une économie en fait qui est avec des salaires qui sont montés de manière très très forte sur le quintile supérieur de la société, donc principalement dû au... Alors c'était les politiques de Reagan, de Thatcher, l'idée que le marché en fait était capable de s'autoréguler et que l'État c'était le problème en gros. Il n'est plus de représentation d'intérêt général puisque le marché allait tout droit vers un espèce d'optimum de bonheur absolu. Donc, et cette création de valeur s'est faite en fait par de la dette et une dette en fait qui affectait d'abord les classes moyennes et qui maintenant touche les États. Et donc on se retrouve à un moment où ce système en fait qui avait un certain nombre de leviers de création de valeur se retrouve pris à son propre piège et dans une perversion en fait de ses propres valeurs où c'est l'économie en fait qui règle l'État, qui règle la politique, qui devient finalement le dieu, on peut le dire, l'hypercapitalisme. Sa grande force en fait c'est d'être une nouvelle religion, je crois vraiment, hein, une religion en fait de la raison financière divinisée. Et cette raison financière divinisée devient en fait le modèle qui tourne tout seul et dont chacun de nous est le petit artisan. Il n'y a pas quelques grands capitalistes méchants. Il y a beaucoup de gens qui vont chez Zara s'acheter des pulls à 10 euros ou chez Uniqlo en se demandant pas où ils sont fabriqués.
L'hypercapitalisme, il commente dans le supermarché.
C'est-à-dire l'hypercapitalisme suppose l'hyperconsommation. Absolument. Sans l'hypercapitalisme, il n'y a pas d'hyperconsommation. La multiplication des rotations, en fait, des actions sur des temps de plus en plus courts, suppose la multiplication des transactions à l'intérieur du magasin sur des temps de plus en plus courts, donc avec des grandes surfaces et des collections courtes, par exemple.
Alors, nos auditeurs ont compris avec quelle passion, avec quelle pertinence vous décrivez les dérives de l'hypercapitalisme, mais ils ne devraient pas en déduire que vous êtes un anticapitaliste primaire. Et je lis ce que vous dites à la page 32, pourquoi on ne peut pas être anticapitaliste, sur lequel on va revenir. On ne peut plus être hypercapitaliste, c'est aujourd'hui une certitude, et pourtant on ne peut pas non plus être anticapitaliste, car l'anticapitalisme ne propose aucune alternative pour créer le développement économique dont l'humanité a tant besoin pour éradiquer la pauvreté. C'est une pensée qui garde les mains propres, car elle n'a pas de mains, pour paraphraser Peggy. Une pensée de facteur qui aurait renoncé à l'usine en 3-8 de son centre de tri. Une pensée de facteur sans vélo, car le vélo implique la chaîne de production qui l'a fait naître. Une pensée sans argent et donc sans timbre pour payer l'homme à la sacoche qui pédale. Je crois que c'est une image qui est assez belle et est assez peu courante, je dirais, dans les interviews d'économistes, mais qui a le mérite d'être très claire. Donc, on ne peut pas être anticapitaliste.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas être anticapitaliste tout simplement parce qu'on n'a pas d'autres systèmes de rechange. Enfin, si on est un tant soit peu responsable... Pour l'instant, tout le monde le sait, c'est qu'en fait, il y a le développement. Si on prend les deux facteurs, le développement et la démographie, pour l'instant, la démographie a toujours gagné sur le développement. C'est ça notre problème. Donc, si aujourd'hui, on veut arriver à nourrir toute la planète, tout simplement, ou à simplement donner un simple niveau de vie bien plus bas que le niveau européen à toute la planète, on est obligé, en fait, de créer une économie de production qui crée une richesse au service de tous. Donc, revenir là-dessus, c'est tout simplement impossible. C'est tout simplement de l'irresponsabilité. Donc, je suis un capitaliste libéral. C'est absolument libéral, mais social. Donc, parce que ce qu'on s'aperçoit d'autre part, c'est que ce système ne fonctionne pas s'il devient le fait d'une minorité, en fait, s'il ne profite qu'à une minorité.
Alors, vous soulignez en page 44 que, en définitive, le capitalisme repose sur une fragilité quasi congénitale, c'est-à-dire qu'il est bâti sur une forme d'utopie. Et vous revenez, bien entendu, à l'aube de la Grèce entre citoyens et esclaves. Cette utopie, alors, c'est quoi, en deux mots ?
Alors, la grande différence entre... Revenons sur l'histoire longue. La grande différence entre cette civilisation du capitalisme et celle de Rome, si on se considère d'un point de vue économique, c'est que les leviers de production ne sont plus basés sur les forces humaine, sur les esclaves, dans la civilisation romaine. Rappelez-vous l'ossium et le négocium. L'ossium, c'est se balader sur l'agora et parler des dieux ou de la cité, du bien-être de la cité, du bonheur citadin romain, si vous voulez. L'ossium s'oppose au négocium. Le négocium est quelque chose de vil quand vous allez à Pompéi, même si quand vous voyez la villa des esclaves affranchis, cette villa des esclaves affranchis ne leur donne pas un rang de citoyen. Ils n'ont pas tous les droits qu'un citoyen romain né de père et de mère romaine, bâti sur une civilisation. Il faut relire Fustel de Coulanges, la cité antique, etc.
L'égalitarisme
C'est une situation fondamentalement basée en fait sur une séparation entre l'esclave et les citoyens, ceux qui ont le droit à la citoyenneté, qui ont les dieux de la cité, les dieux de la patrie, la terre des pères, la terra patria, les dieux de la terra patria et les autres. Bon. Et il me semble que le grand marqueur en fait, de cette civilisation du capitalisme, il commence à partir du 7e siècle, en fait, il y a une fin de l'esclavage. C'est-à-dire que tout être, à partir du moment où l'Empire romain commence à se raréfier, que les grands trafics d'esclaves internationaux, slaves, esclaves, rappelez-vous, s'appauvrissent, les campagnes retournent à la friche, les villes disparaissent, et c'est tous ces gens qui sont devenus chrétiens, parfois chrétiens ariens, auraient bien du mal à mettre en esclavage l'homme qui est devant eux, qui est un frère, au nom de Jésus-Christ, qui est un frère en Jésus-Christ. Donc, c'est ce que montre Duby, à partir du 7e siècle, on est quasiment sûr, là, il y a une raréfaction de l'esclavage et une fin de l'esclavage en Occident. Et c'est cette fin de l'esclavage en Occident qui a obligé en fait à penser de nouveaux moyens de production et des moyens de production basés sur la mécanique. Quand on prend quelqu'un comme Joël Mokyr, il dit à Rome 80% de la force provient des esclaves, dans le Moyen Âge 80% de la force provient des bœufs, des moulins à eau et petit à petit des énergies mécaniques. Et ce n'est pas faute, il faut savoir qu'au 4e siècle avant Jésus-Christ, déjà à Alexandrie, tout le monde le sait, la machine à vapeur existait déjà, sauf que cette invention avait juste servi à ouvrir une grosse porte d'un temple et n'a pas permis la révolution industrielle qu'on trouve au XVIIIe siècle en Occident. La fin de l'esclavage, l'égalité entre les êtres, qui est une égalité qui va profondément travailler la société, qui vient d'un côté du stoïcisme et de l'autre côté de la fraternité juive, va créer une idéologie en fait, de l'égalité, dont Tocqueville va dire qu'elle est, après dans la démocratie en Amérique, que cette passion pour l'égalité, c'est la marque, c'est la grande marque des peuples démocratiques. Et je crois que c'est vrai.
Oui, on vous suit sur ce point. Vous rappelez en page 165 les problèmes de l'hypercapitalisme en très grande synthèse. Premièrement, c'est non seulement qu'il est injuste, mais deuxièmement, c'est qu'il est instable. Et troisièmement, c'est qu'il fait payer pendant longtemps à la classe moyenne ses dérives
Tout à fait. Et
aux contribuables. Mais néanmoins, vous n'en déduisez pas que le capitalisme est à son crépuscule. En tout cas, vous en posez un point d'interrogation.
Très franchement, je ne crois pas que l'hypercapitalisme est à son crépuscule.
C'est ça.
C'est-à-dire que je crois que même aux États-Unis, l'autre jour, je parlais avec des Américains, même aux États-Unis, tout le monde a compris en fait, qu'on ne pouvait pas trouver de finalité en fait, dans le simple capitalisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de finalité en soi dans le capitalisme et de tautologie en fait, de la raison financière. Donc ça, tout le monde a compris. Il suffit d'aller dans la rue pour le demander aux gens. Donc, il ne me semble pas qu'on puisse revenir aux années 70, 80, à cette espèce de féerie de la production et de la consommation. Le problème, c'est que plus personne n'y croit. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, la question, c'est comment on continue de croire au capitalisme, parce que c'est croire à l'humanité, c'est croire au développement, c'est tout simplement croire que l'être humain vaut quelque chose et que ça vaut la peine de le nourrir. Je veux dire, s'il y a des grandes surfaces, s'il y a de la grande distribution, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui voulaient s'enrichir, c'est parce qu'il y a d'abord eu des gens qui voulaient manger. Et qui voulaient manger à leur faim.
L'économie de marché a facilité cette
solution. Sans l'économie de marché, on ne serait pas ce que nous sommes. Sans l'économie de marché, il n'y aurait pas eu un développement fantastique des sciences, une mise à disposition de tous par les pharmacies, de tous les médicaments. Là où au Moyen-Âge, on mourrait d'une rage de dents. Enfin, je veux dire, revenir avant ça, c'est une vue de l'esprit qui peut être amusante en France de chatouiller de temps en temps, mais ça ne mène à rien. Quoi. Voilà. Donc la question, quelle est la prochaine étape ?
Tout à fait. Alors, ce que vous dites, que vous ne croyez donc pas la civilisation du capitalisme soit en train de mourir, bien au contraire, vous soulignez bien entendu au passage les défis qui sont devant elle ou devant lui, le capitalisme. Premièrement, on va vivre sur une planète surpeuplée. Deuxièmement, nous sommes à l'aube, si je puis dire, du crépuscule de l'Empire occidental. C'est-à-dire en tout cas, une remise en cause sérieuse de l'Empire occidental. Troisièmement, il y a le grand sujet de la rupture écologique et l'explosion du religieux, de Dieu, comme une valeur prioritaire.
Tout à fait.
Sauf que ce n'est pas le cas de l'Europe et encore moins de la France. Alors, quelle conclusion en tirez-vous de cette situation d'une France sans Dieu ?
Alors, je vais essayer de replacer d'abord en contexte avant de voir la France, si vous permettez. Tout le monde a cru, à la suite de Max Weber, et moi le premier d'ailleurs, qu'en fait, on assistait, avec la montée en fait, de la sécularisation, c'est-à-dire de valeurs religieuses qui devenaient des valeurs humaines et humanistes et qui s'intégraient à la société, finalement, en n'ayant plus besoin de Dieu. C'est-à-dire qu'on monte à une échelle et puis on la repousse et voilà, on a ses valeurs et on continue de vivre avec. On a cru finalement que la sécularisation allait, en montant, en fait, affaiblir le religieux. Et qu'il y avait des sociétés traditionnelles qui étaient structurées par le religieux et qui étaient chassées petit à petit par des sociétés modernes, issues du siècle des Lumières, qui grimpaient et qui étaient sécularisées. Et en fait, tout ça était une vulgate, sauf que tout ça est faux. C'est-à-dire que ce qui se passe actuellement, c'est qu'on constate que non seulement que les religions se portent bien, mais que le monde, comme dit Peter Berger, est devenu furieusement religieux.
Oui.
Donc, dans ce monde furieusement religieux, on s'aperçoit que, finalement, l'homme a besoin d'une profondeur. Et quand cette profondeur n'est pas traitée par des religions traditionnelles, en fait, qui n'ont pas réussi à exister dans la modernité, eh bien, il y a des religions délirantes. Et ces religions délirantes, elles prennent les formes de l'islamisme, elles prennent plus ou moins délirantes, avec des contenus différents. Les évangéliques, qui sont 500 millions de personnes dans le monde, et ce n'est pas forcément délirant, mais il y a une très, très, très grande poussée en Afrique, en Amérique du Sud, en Russie et en Chine, en fait, du religieux. Et là-dedans, l'Europe est l'exception, et surtout la France, puisque la France se dit, ben non, nous, on a un truc, c'est la laïcité à la française, et ça va nous protéger, en fait, des religions. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'on a des problèmes avec des gens qui mettent leur burqa, on a des problèmes avec des gens qui veulent manger différemment. Donc, il va maintenant falloir traiter le religieux et essayer de le traiter intelligemment pour qu'on ne se tape pas tous sur la figure, en gros, puisqu'on sait que le religieux, dans l'histoire, a produit le meilleur, mais aussi le pire.
Oui, mais le religieux, est-ce que c'est la spiritualité ?
Alors, c'est toute la question. Donc, en France, on se dit, mais c'est formidable, on pourra en fait avoir une spiritualité sans les religions. Bon, alors, c'est une grande idée des Lumières, c'est une idée kantienne. Hein.
C'est repris par un certain nombre de philosophes, voilà, notamment André Comte Sponsville.
Oui, tout à fait.
Pour une spiritualité
alors, la question,
sans Dieu.
Donc, si on regarde un peu en histoire des religions, si on reprend Weber, Mauss et un peu tous les, disons, les grands sociologues des religions, c'est qu'en fait, il n'y a jamais eu en fait, de société sans religion. Et effectivement, ce que Weber, à la suite de Schleiermacher, appelle donc, des virtuoses du religieux, donc Schleiermacher, c'est l'époque de Kant, hein, c'est une espèce de relecture de Kant, il y a eu des virtuoses du religieux, et ces virtuoses du religieux ont toujours produit en fait, une religion qui permet... Le virtuose du religieux, c'est le mystique, donc c'est l'homme qui a une rage dedans, si vous voulez. Il fait une expérience tellement forte qu'il va la raconter à tout le monde. Bon. Et après, il y a tous les autres qui n'ont pas eu de rage dedans, mais qui sont un peu comme les dentistes et qui, eux, consomment de la religion à travers des formes institutionnalisées qu'on appelait les religions. Et ça s'est toujours passé comme ça. Donc, il y a l'homme qui a eu la rage dedans, le religieux, le mystique, le virtuose. Et de l'autre côté, il y a la grande masse. Et la grande masse va chez Carrefour. Donc, et effectivement, entre la grande masse qui va chez Carrefour, l'institution, et puis les paroles brûlantes, merveilleuses et qui nous touchent en plein cœur mystique, il y a entre l'âge Saint-François et puis
l'homme de la rue,
l'archevêque, il y a quand même une très, très grande différence. Donc, et en fait, il n'y a jamais eu de société sans religion. Donc, il y aura des religions, il y aura d'autres religions qui vont naître. Il y a d'autres formes de religions qui naissent. Les religions sont en train de muter profondément dans la globalisation et sans qu'on sache vraiment où on va, quoi. Voilà, c'est
d'accord,
ça. C'est le grand défi du XXIe siècle. Là-dessus, on retrouve Malraux, mais c'est évident. C'est le grand défi. C'est-à-dire que les religions ne sont pas du côté du passé de l'humanité, mais elles sont du côté de son avenir.
L'avenir voilà. de l'humanité. Alors, vous ne vous contentez pas de faire donc, un diagnostic, une synthèse de la situation. Vous proposez des voies de solution pour une réforme urgente du capitalisme, dites-vous. Et ce qui est assez frappant, c'est que ce sont les propositions que vous faites. Alors, en quelques mots, puisqu'on arrive au bout de notre entretien, mais moi, je note absolument deux axes qui m'ont surpris. Premièrement, vous dites en page de 198, ce n'est pas le rôle de l'État. Vous êtes bien un des rares qui disent ceci dans cette période où on assiste à un retour de l'État. Et deuxièmement, bon, ça se comprend un peu plus lorsqu'on vous a interviewé, vous donnez comme centre d'action les chefs d'entreprise.
C'est,
vous
voilà,
mettez au cœur de la solution les chefs d'entreprise, l'esprit d'entreprise. Alors, entendre ça d'un ancien bénédictin, c'est assez surprenant.
Alors voilà, oui, vous avez tout à fait raison. C'est que je propose une espèce d'international des patrons, pour le dire de manière
absolument,
un peu brutale.
Absolument. Donc, c'est l'anti-Marx.
à la suite d'un philosophe allemand qui s'appelle Peter Sloterdijk, qui avait proposé cette idée il y a quelques années. C'est lié à mon diagnostic. Mon diagnostic, donc l'hypercapitalisme, c'est qu'en fait, l'argent a pourri la démocratie. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les partis pour vivre ont besoin, aux États-Unis mais aussi en Europe, ont besoin en fait, de l'argent du capitalisme. Donc d'une certaine manière, le capitalisme a utilisé en fait, le lobbying et le financement des partis en fait, comme effet de levier du marché. Donc, d'une certaine manière, c'est comme si on demandait, l'État me semble plus capable de pouvoir réguler le capitalisme. Et non seulement à un niveau d'une nation, mais aussi parce que le capitalisme est devenu globalisé et qu'on n'a pas de gouvernement global. Alors, à moins de trouver l'idée d'un grand gouvernement global, etc., des idées anciennes, okay, qu'on pourrait réappliquer aujourd'hui. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord. Hein, pour cette grande institution, je me propose au poste de directeur général. Il n'y a pas de problème. Mais d'accord. En attendant mieux, ceux qui ont le pouvoir, en fait, sont réellement les investisseurs, les financiers et les chefs d'entreprise. Donc, il me semble que c'est à eux de prendre leurs responsabilités et de se demander, finalement, l'entreprise étant la conjonction de trois communautés, celle des clients, celle d'une communauté humaine qui fournit et celle des investisseurs, si à l'entrecroisement de ces trois communautés, il n'y a pas un lien, en fait, très fort avec la société qui fait qu'on crée, en fait, du lien social ou qu'on en détruit. On crée de la société, on ne crée pas de société. Et si on ne crée pas de socialité, on détruit le marché. Donc si on détruit le marché, on détruit la branche sur laquelle on est assise. Donc il me semble qu'une internationale des patrons, dans son côté un peu révolutionnaire, me semblerait une bonne idée.
Alors je vous cite donc pour terminer, sur le rôle de l'État, il n'y a pas d'économie de droite ou de gauche, il y a l'économie qui marche et celle qui ne marche pas. Nous ne pouvons donc pas nous appuyer sur l'État, même si c'était son rôle de réguler le capitalisme. Le rôle de l'État est clairement socialiste et la crise est en train de le confirmer. Nous ne pouvons pas non plus nous appuyer sur le système financier. Et je termine en rappelant ce que vous dites dans votre conclusion, la cupidité qui n'est qu'une forme de stupidité et plus généralement le fait de personnes qui ne prennent aucun risque. Je propose donc une internationale des chefs d'entreprise pour réformer d'urgence le capitalisme en train de mourir. Avons-nous réellement le choix ? Et c'est signé Paris-Jérusalem, printemps 2009. Voilà, mesdames et messieurs, c'était notre entretien avec Didier Laurent. Didier Laurent, merci.
Merci
pour
à
la
tous.
Parution de son nouvel ouvrage « Capitalisme et christianisme, 2000 ans d'une tumultueuse histoire » chez Bourin. 200 pages, 21 euros, un essai remarquable en tout point. Merci à vous, Didier.
Merci à tous. Merci. Merci.